mode d'emploi. Bonjour, ici l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous allons expérimenter une nouvelle formule avec une nouvelle équipe. Donc c'est la formule secret de fabrication. Alors pourquoi ? Secret de fabrication, c'est ce qu'il est interdit aux inspecteurs et contrôleurs du travail de dévoiler dans le cadre de leur mission. Et cette émission animée par des agents de l'inspection du travail, par des agents de Pôle emploi, fera exactement ça, c'est-à-dire que nous allons dévoiler ce qu'il se passe de l'autre côté du guichet, de l'administration, de l'autre côté de la porte des entreprises, pour dire qu'est-ce qu'il se passe en termes de résistance, de vie, de lutte sur le lieu de travail. C'est donc un complément de mode d'emploi, c'est le pile et face de la même version, du même phénomène. Alors ce soir, c'est une émission qui sera consacrée à la lutte des travailleurs sans papier contre leur exploitation dans le travail au noir. Nous allons commencer par détailler ce qu'il se passe au 57 boulevard de Strasbourg, pourquoi ce salon de coiffure est occupé par ses salariés. Et nous allons continuer en élargissant sur la campagne de l'Union nationale des sans-papiers contre l'exploitation dans le travail au noir, soutenue par les syndicats du ministère du Travail. Voilà, alors je vais commencer par présenter nos invités. Alors, j'ai avec nous Yaya Keïta, qui est délégué de la coordination des sans-papiers 93, coordination membre de l'Union nationale des sans-papiers. Mamadou Diallo.
Coordination de sans-papiers de Vitry-sur-Seine, le département du 94.
C'est ça, également membre donc de l'Union nationale.
Membre de l'Union nationale des sans-papiers.
Voilà. Alors, j'ai avec moi Fatou Doumbia.
L'une des 18 grévistes du 57 boulevard de Strasbourg.
Et Marilyn Poulain.
Militante de la CGT Paris, soutien de la lutte du 57 boulevard Strasbourg.
D'accord. Le ministère du Travail est aussi représenté avec nous, puisque nous avons donc François Cassard.
Oui, je ne représente pas le ministère, mais la FSU du ministère du Travail.
Voilà, bien sûr. Donc syndicaliste au ministère du Travail. Voilà. Donc moi-même, je serai votre animateur lors de cette émission et des formats suivants de secret de fabrication. Je m'appellerai le camarade Bub. Voilà. Donc bien entendu, bon, c'est pour des raisons de discrétion, puisque nous ne sommes pas supposés révéler de secrets de fabrication et que c'est précisément ce que nous allons faire ici. Donc voilà, alors déjà pour commencer, nous allons commencer par la lutte emblématique des salariés du 57 boulevard de Strasbourg. Donc c'est un salon de coiffure qui, depuis plusieurs mois déjà, est occupé par ses salariés qui demandent leur régularisation, si j'ai bien compris aussi le paiement de leur salaire, la sortie du travail au noir, et nous allons entrer un peu dans le détail de cette bagarre. Alors, donc je me tourne vers Fatou. Alors Fatou, comment a démarré la lutte du 57 boulevard de Strasbourg ?
En effet, la lutte du 57 boulevard de Strasbourg a débuté par le transfert des salariés du 50 au 57.
D'accord, le 50 était un autre
salon de coiffure. On a été transféré par le patron du 50 au 57 depuis le mois de décembre 2013. Et on arrive là, on travaille, on n'est pas payé. Pour être payé, il fallait vraiment commander le propre salaire où on te donne un petit morceau à la suite. Et vers la fin, comme on voulait vraiment on commençait à en avoir marre, donc on avait commencé à se rebeller un peu, à se révolter. Et les patrons, ils ont trouvé que ça, c'est une chose qui ne pouvait pas perdurer ou que ça ne pouvait pas les arranger. Donc, ils ont voulu changer de gérant. Et c'est comme ça la lutte a commencé. Et il y a un nouveau gérant qui se présente à nous. Comme quoi, le gérant qui était là n'arrive pas à bien gérer les affaires, qui n'arrive pas à payer le local. Donc, ils allaient fermer le salon pendant qu'on n'était pas payé. Et nous, on n'a pas accepté cela. Et on a fait appel à la CGT, dont on connaissait la connaissance depuis le 50.
D'accord. Alors, on a le 50, on a le 57. On a donc plusieurs salons de coiffure dans le boulevard de Strasbourg. Je me tourne vers Marilyn. Est-ce que c'est possible de nous faire une rapide descriptif de l'activité de la coiffure dans le boulevard de Strasbourg? Oui.
Ben, sur le quartier Château d'Eau, on va dire sur le boulevard de Strasbourg, la rue du Château d'Eau, mais aussi un grand nombre de rues adjacentes depuis le métro Château d'Eau, depuis la gare de l'Est jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis, on a plus d'une centaine de salons de coiffure afro. Et aussi un grand nombre de magasins de produits de cosmétiques pour la dépigmentation, nombreux produits cosmétiques afro et aussi des ongleries pour faire la manucure.
D'accord. Donc c'est pas on ne parle pas bien juste d'un seul salon de coiffure là. On
c'est un véritable système qui est en place avec des centaines de salons et donc des centaines de salariés qui sont exploités dans ces salons.
D'accord. Donc précisément, donc là je me tourne de nouveau vers Fatou, qu'est-ce qui vous a décidé à bouger? Enfin, et d'ailleurs je dirais avant de bouger, pourquoi vous n'avez pas à bouger plus tôt, mais une fois que la décision a été prise, pourquoi vous avez décidé de passer à l'action?
Bon, avant on pouvait pas bouger parce que on était sans papier, donc on avait la crainte des policiers. Mm-hmm. Et le patron qui nous menaçait à chaque fois de faire appel à la police pour pouvoir nous faire rafler et tout ça, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas trop se mouvoir. Mais vu que les salaires ne tombaient pas, on travaillait jour et nuit dans des conditions vraiment déplorables, qu'on n'était pas payé. Et pour qu'on puisse nous virer comme ça, d'une manière sans nous payer, vraiment, ça, c'était révoltant.
D'accord. Donc il y avait bien un non-paiement du salaire.
Oui, un non-paiement du salaire.
Et comment vous saviez ce qu'on vous devait? Comment ça se calculait, ce salaire?
On avait des carnets. On avait des carnets. Quand on travaille le soir, on note. Le patron, il signe avant le départ. Donc c'est comme ça qu'à la fin du mois, on fait le calcul parce qu'on était payé à la tâche. Voilà.
D'accord. Payé à la tâche, c'est-à-dire par client?
Oui, en fonction des clients. Quel que soit le temps qu'on y passe sur la tête, on était payé en fonction du nombre de clients qu'on recevait par jour.
Voilà. D'accord. Un forfait par client.
Oui.
D'accord. Alors, je me tourne vers François. Donc, quand on dit comme ça, salaire à la tâche, paiement au nombre de clients sans rapport avec le travail, ça évoque quelque chose. C'est quoi?
Inévitablement, en tant qu'agent de contrôle, on ne peut pas apprécier le rapport avec les rémunérations minimales qui existent dans ce pays. Comment le SMIC peut-il être respecté avec une procédure de travail à la tâche? La plupart du temps, les salariés sont rémunérés bien en deçà de ces quotas qui sont prescrits par la loi.
Car le SMIC se calcule à l'heure.
Voilà, le SMIC se calcule à l'heure et non pas au nombre de prestations effectuées dans telle ou telle entreprise par des salariés plus ou moins zélés, plus ou moins efficaces et confrontés à des cadences parfois très difficiles.
Mmh. Donc, non seulement donc vous êtes payé à la tâche, ce qui est irrégulier, mais vous apercevez qu'en plus, le patron garde l'argent pour lui, en fait.
Ah oui, il garde l'argent. Et nous, on travaillait jour pour jour, c'est-à-dire 6 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7. Parce que souvent, on travaillait les dimanches en période de fête. Et de 8h30 à 23h, voire même plus, à un salaire qui n'était pas payé.
Mmh. Donc, quand est-ce que vous décidez? Donc, vous vous décidez à bouger et votre première action, c'est de contacter la CGT?
Oui. Mmh. On a décidé de bouger dans le mois de mai, où on a fait appel à la CGT, qui arrive, qui croise le nouveau patron qui s'était présenté subitement à nous comme ça, qui voulait fermer le salon, comme quoi ça marche pas. Et à la suite de ça, avec l'appui de la CGT, on a pu avoir le salaire qui était payé à la tâche et des fiches de paye rétroactives, parce que si j'ai dit le salaire qui était conforme à notre paye de tâche, à notre paiement à la tâche, parce que on a les fiches de paye qu'on avait reçues, la somme qui y figurait, c'est pas ce qu'on avait reçu. Donc on a accepté ça comme ça, on a été déclaré, enfin on a eu un contrat de travail et tout ça qui a été arrêté brusquement après juste 3 semaines.
D'accord. Donc à ce moment-là, si j'ai bien compris, on a déjà plusieurs patrons qui se succèdent.
Oui, 3 patrons qui se sont succédés, qui ont eu pratiquement le même comportement.
D'accord. Et Marilyn, ça veut dire que quand vous voyez une série de patrons qui se succèdent les uns derrière les autres, comment vous prenez la mesure à la CGT du système de boulevard de Strasbourg ? C'est-à-dire, comment ça vous apercevez qu'en fait, c'est un système de patrons qui sont solidaires entre eux, si j'ai bien compris, qui se refilent des informations, qui se refilent des salariés peut-être aussi ?
Bah, c'est-à-dire, déjà, on voit des patrons qui recrutent dans un salon donné, qui les transfèrent dans un autre salon, avec un autre gérant de fait, mais qui n'est pas le gérant officiel qui figure sur les papiers, puisque celui-ci, les salariés le découvrent au mois de mai. Donc on a une véritable ronde de gérants. Ça peut paraître un peu compliqué, confus, mais des gérants qui figurent sur les documents officiels, mais des gérants qui gèrent factuellement le salon et qui, eux, ne figurent sur aucun papier et qui sont donc, entre guillemets, qui passent à l'as en cas de contrôle, puisque ces gens-là ne sont là que factuellement, mais ils ne sont sur aucun papier officiel. Donc il y a des écrans, on va dire, des façades pour faire face en cas de contrôle, pour faire face en cas d'amende, de condamnation. Donc il y a un véritable système qui est organisé. On le découvre le jour de la liquidation judiciaire, le 24 juillet. Donc là, on découvre... Il y a un nouveau gérant de fait, d'ailleurs, qui est présent dans le local. Et c'est lui qui donne la décision de liquidation judiciaire. Et on s'aperçoit concrètement que cette décision, elle a été prise par le quartier dans sa globalité, puisqu'en effet, il ne faut pas être déclaré à Château d'Eau. Ce qui a été porté par les salariés ne doit pas exister à Château d'Eau. Le fait d'être déclaré, le fait d'entamer des procédures de régularisation ne doit pas fonctionner.
D'accord. Donc en fait, la bagarre fait apparaître un système qu'on pourrait qualifier de mafieux.
Totalement.
D'accord. Alors juste un petit point technique sur la question de la gérance. Donc François, on a entendu parler de gérant de paille, de gérant de fait, de gérant de droit. Ces différentes catégories, ça couvre quoi ? Donc gérant de droit, il apparaît ?
C'est bien simple. Pour arriver à contrôler et à réprimer des infractions qui sont constatées localement sur le terrain, il faut une personne morale et une personne physique que l'on puisse inculper, à l'encontre duquel les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent dresser des procès-verbaux. À partir du moment où les gérants déclarés ne sont pas effectivement les gérants qui sont présents sur le terrain pour faire tourner les boutiques, il apparaît une contradiction dans les procédures juridiques qui peuvent être attentées à l'encontre de ces personnes et à l'encontre de ce système mafieux.
Donc on a bien... Là, pour le coup, l'explication du fait pourquoi la gérance de fait est un délit. C'est que la personne qui gère effectivement le magasin doit apparaître telle quelle dans les documents officiels, comme gérant de droit.
La gérance de paille tout autant.
Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, quand est-ce que, Fatou, tu as compris que tu étais au cœur d'un système mafieux, que tu étais au cœur d'un système qui était illégal et que ça fonctionnait en réseau comme ça?
J'ai compris que j'étais au cœur d'un système mafieux lorsque on a reçu notre contrat de travail par le nouveau gérant et que on avait été déclaré que les patrons sur le boulevard se manifestaient en nous disant que ça pouvait pas marcher être déclaré et être payé au SMIC. Ça c'est un truc qu'on pourrait pas instaurer à Château d'Eau.
D'accord. Donc... Oui. Zone non-endroit à Château d'Eau,
oui.
Avec l'aval de tous les employeurs du secteur, en fait.
Oui.
C'est ça.
Oui.
D'accord. Fonctionnant un peu en réseau, s'échangeant des salariés et s'assurant entre eux, si j'ai bien compris, que personne n'est déclaré,
oui,
et que personne n'est dans ses droits.
Voilà.
D'accord. Alors, bon, c'est pas facile. Je vois qu'il y a eu quand même une série de difficultés. C'est quoi les premières étapes? Comment on rentre en lutte? Qu'est-ce qu'il faut s'assurer d'abord dans l'immédiat?
Ben, en fait, nous, notre lutte a été spontanée vu que le patron est venu nous tendre l'affiche comme ça un soir à 18h, alors que déjà sur l'affiche, le magasin était fermé depuis le 20. Et le 22, il vient nous tendre l'affiche, déjà qu'on était représenté par l'un de ses complices qui avait confirmé que le salon ne marchait pas et qu'il fallait aller à la liquidation, il fallait fermer. Le patron est venu nous tendre l'affiche comme on devait partir dans l'immédiat, tout de suite et dans l'immédiat.
Un ordre d'expulsion, quoi, quasiment.
Voilà. Et c'est dans ce contexte que vraiment on s'est mis ensemble. C'est là que vraiment la lutte a vraiment démarré. Et on n'a pas accepté. Il a dit qu'il allait appeler la police une fois encore de plus. On a dit que cette fois-ci, on allait assumer. Mm-hmm. Et on a fait appel à la CGT une fois de plus, mm-hmm. qui est venue en même temps que la police arrivait.
Wow.
Et effectivement, la police était arrivée. Et ils ont discuté avec la CGT qui... Ils ont trouvé un terrain d'entente. La police avait trouvé qu'on avait raison, qu'on devait rester là. Après, on a été conduit en justice.
D'accord.
Par le propriétaire, les patrons là, qui ont dit qu'on devait partir des lieux, qu'on n'avait rien à faire là parce que le lieu était en liquidation. Donc, on devait régler désormais nos histoires avec le liquidateur. Mais nous, on ne pouvait pas accepter ça.
D'accord.
On a porté plainte contre ce système, un système d'esclavagisme qui existe à Château d'Eau, qui est vraiment un système très dur. Le système mafieux qui s'est mis en clan contre les sans-papiers, qui veulent qu'on reste là sans papier, sans être déclaré et tout, pour qu'ils profitent de nous.
Mm-hmm. Je me tourne de nouveau vers Marilyn. Marilyn, je sais que tu as l'habitude de soutenir des luttes de travailleurs sans papier à la CGT, mais est-ce que ça se passe comme ça d'habitude quand les sans papiers viennent voir la CGT? Est-ce qu'il y a des différences? Enfin, est-ce que c'est un peu particulier dans ce cas-là au précis ou...
Alors, on est habitué, comme tu le sais, à soutenir des luttes depuis les années 2008, 2000, même 2007, 2006, au niveau de la CGT, des luttes de travailleurs sans papier. La spécificité de cette lutte, c'est qu'on est quand même sur des conditions de travail qu'on avait rarement constatées auparavant. Vraiment des conditions de travail contraires à la dignité humaine qui ont été d'ailleurs constatées par l'inspection du travail dans un PV. On a eu une lettre qui répertoriait les 15 infractions qui ont été relevées par l'inspection du travail sur le conflit. Donc notamment le fait que les salariés étaient exposés à des produits cancérigènes, l'absence d'aération, l'absence de ventilation, les horaires complètement inextensibles, la rétribution inexistante, voire totalement insuffisante par rapport aux tâches effectuées. Et aussi, de notre point de vue, une problématique qui a été justement dénoncée par l'inspection du travail par un article 40 du Code de la procédure pénale, c'est-à-dire la traite des êtres humains, c'est-à-dire un recrutement clairement organisé à Château d'Eau de personnes en situation de vulnérabilité à des fins d'exploitation et dans des conditions de travail contraires à la dignité humaine. C'est-à-dire un véritable système d'exploitation de salariés sans papier qui est organisé en plein cœur de Paris, un véritable système d'esclavage qui est organisé, avec des personnes qui recrutent directement sur le quartier des personnes sans papier et aussi avec des parcours de vie assez difficiles, beaucoup de demandeurs d'asile ayant fui leur pays pour des problématiques politiques assez graves et assez lourdes. Des femmes aussi isolées, hein, c'est ce qu'on constate. Et donc un état de vulnérabilité pour nous qui est assez flagrant. Et on avait rarement rencontré, on avait beaucoup rencontré des salariés dans lutte qui étaient dans des foyers, qui étaient pris en charge dans la communauté. Et là, c'est des salariés qui sont complètement isolés et dont qui ont aussi des problématiques souvent qui étaient sans domicile fixe au moment où ils ont été recrutés.
Donc, tu qualifierais ça d'une lutte particulièrement difficile tout de même?
Très difficile, avec une précarité très forte.
D'accord. Donc Fatou, pendant la lutte, on voit qu'elle est difficile. Quels sont les obstacles qui font que quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans le cadre, une fois que vous êtes mis en lutte, qu'est-ce qui vous a pu vous surprendre, vous poser des difficultés, et comment vous avez pu réagir, comment vous avez pu faire face.
Les obstacles qu'on a pu rencontrer, c'est avec les patrons qui sont pas forcément d'accord avec ce qu'on est en train de faire, parce que c'est leur système qui est dénoncé, qui est dévoilé en fait. Et l'obstacle qu'on rencontre ensuite, c'est la préfecture qui ne veut pas entendre raison de notre plainte, qui veut examiner juste cas par cas, si comme c'était des cas individuels. Alors qu'on a dénoncé vraiment un système qui existe, un système d'esclavagisme qui existe, qui peut-être les gens ignoraient, mais que nous, on a levé le voile dessus. Donc ça devait être pris en compte. La plainte qu'on a portée n'est pas rien plutôt. Donc ça devait être pris en compte, ça devait être considéré quand même. Mais il y a un blocage au niveau de la préfecture, ça fait un obstacle.
Oui. Donc, nous allons revenir effectivement sur la question des préfectures et de leur politique. On va passer la parole aussi aux camarades des collectifs sans papier après une courte pause musicale. C'était Touchfield, Bonnyfield. Donc, nous sommes sur l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel. Aujourd'hui, c'est l'équipe Secret de Fabrication qui vous entretient sur la lutte des travailleurs sans papier contre le travail au noir auquel ils sont soumis. Si vous voulez intervenir à l'antenne, il y a un numéro 01 40 05 06 10. Alors, on va revenir sur... donc, on avait parlé des difficultés à la fois du côté des employeurs indélicats et, on va dire, puisqu'on l'a déjà dit, mafieux du système du boulevard de Strasbourg et du Château d'Eau. On a vu que la préfecture n'était pas extrêmement motivée pour régulariser, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, face à ces obstacles, comment on organise la résistance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenir, alors que visiblement, tout le monde met de la mauvaise volonté, et y compris même les pouvoirs publics?
Alors là, ce qu'on peut faire pour tenir, c'est que il faut que la préfecture vraiment se décide. Parce que nous, une chose est certaine, c'est que nous, on ne veut plus travailler au noir. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, si on va travailler au noir quelque part d'autre, ça serait toujours les mêmes choses. Donc, on ne veut plus reprendre, on ne veut plus être plongé dans ce système-là, on veut être détaché. Donc, pour cela, on a besoin d'autorisation de travail pour qu'on aille travailler quelque part d'autre et être déclaré, sorti de l'ombre. Donc, on veut plus être sous l'emprise des patrons mafieux qui nous exploitent à Château d'Eau. Mm-hmm. Et encore, on a décidé de rester à Château d'Eau au 57 parce que c'est là que ça se passe. Mm-hmm. Si on se disperse, notre lutte n'aura plus de sens. Donc, c'est pour cela qu'on maintient le salon, on occupe depuis 7 mois.
D'accord. Il faut matérialiser dans un lieu... La résistance.
Oui.
Voilà. On ne peut pas se disperser et se contenter d'attendre, c'est
voilà,
ça, hein?
Oui. Mm-hmm. Et bon, depuis 7 mois, on ne travaille pas. On ne vit que de la solidarité, des soutiens, des personnes sensibles.
Parce que occuper un salon pendant 7 mois sans être payé, c'est compliqué.
C'est vraiment compliqué.
Ouais.
Déjà,
quand
vous tenez? Déjà, en travaillant, ce n'était pas facile parce qu'on n'avait pas le salaire comme il se devait. Et ça fait déjà 7 mois qu'on est là. On ne fait rien. On a vu que de la solidarité, il y a des gens qui nous viennent en soutien financièrement, comme la CGT qui nous épaule, qui sont vraiment de nos côtés, mm-hmm. qui sont avec nous, et avec les cinéastes et les habitants aussi des quartiers qui nous entendent, quand ils nous entendent sur les chaînes comme ça, qui sont sensibles, qui arrivent, qui se renseignent et à la suite, qui laissent quelque chose. Voilà comment on... Mm-hmm. on tient le salon.
D'accord. Donc, donc vous avez un soutien financier de la CGT. Vous popularisez votre action. Donc, vous allez effectivement sur des médias. Donc, il faut tenir, rester groupé, oui. Faire connaître son action. Oui. C'est beaucoup de travail, en fait.
Ah oui, c'est pas facile. C'est pas toujours facile, mm-hmm. mais on y tient. Mm. On tient et on veut arriver. En tout cas, on y arrivera. On ne lâche rien.
En tout cas, vous avez attiré l'attention. Hein. Il y a eu des articles, il y a eu des émissions de télé, de radio. Oui. Et vous avez aussi acquis le soutien des collectifs sans papier. Hein. Oui. Donc je me tourne vers Mamadou, du délégué du collectif des travailleurs sans papier de Vitry. Oui. Et je voulais savoir un peu pourquoi les collectifs de l'Union nationale des sans papiers sont venus à soutenir cette lutte du 57.
C'est la lutte de tous les sans-papiers. S'ils réussissent à gagner cette lutte, c'est tous les sans-papiers qui seront libérés, c'est tous les sans-papiers qui gagnent. Nous sommes dans la même situation. Actuellement, nous sommes livrés à des patrons voyous. Par le biais du gouvernement, nous sommes livrés mains et poings liés. Ces gens-là nous exploitent sans vergogne. Donc, nous, cette lutte, pour nous, elle concerne tous les sans-papiers. C'est la lutte de tous les sans-papiers. C'est pourquoi nous sommes aux côtés de nos camarades qui sont en train aujourd'hui de se battre corps et âme pour sortir de cette situation.
D'accord. Il y a juste un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, Mamadou, c'est que tu dis le gouvernement et les patrons. Donc, tu expliques que le gouvernement joue un rôle... particulier et, oui. et qui est complice en fait dans cette histoire. Comment tu développes ça? Vas-y.
Voilà, parce que le gouvernement n'est pas censé sans savoir ce qui se passe. C'est pas parce que les sans-papiers fassent de manifestations pour aller rencontrer un ministre qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Ils le savent. Mm-hmm. Le gouvernement est là pour servir, pour donner au patron la main d'œuvre, une main d'œuvre qui n'a pas droit à un congé, qui n'a pas de vacances, qui ne peut pas assister à une affaire sociale, un décès. Ils sont là, ils travaillent dimanche, ils travaillent le week-end. Donc, le gouvernement assume son rôle, c'est de fournir à ses patrons la main-d'œuvre dont ils réclament au gouvernement. Mm-hmm. La preuve en est que la préfecture est complètement opposée à ce que les camarades soient régularisés. Mm-hmm. Voilà, donc le gouvernement est au courant de ce qui se passe. Il joue le rôle de geôlier. Ils sont là pour disons, représenter ces patrons voyous qui cherchent par tous les moyens à exploiter les gens. Voilà.
Mmh. Alors, donc, on entend bien que la préfecture n'a pas pressé de régulariser. Donc, Mamadou lance une charge contre le gouvernement en disant « Ils sont les geôliers des patrons, donc en fait les fournisseurs de main-d'œuvre. »
Voilà.
C'est ça. Est-ce que ça rejoint une analyse de la CGT, Marilyn? Est-ce qu'il y a une manière de voir cette chose-là un peu similaire à la CGT? Comment les choses sont posées?
C'est clair que on a demandé au gouvernement et à la préfecture de police de choisir son camp. C'est-à-dire, en agissant aujourd'hui, elle choisit son camp.
En agissant pas, en l'occurrence.
Non, mais en agissant, soit en régularisant, mmh. soit en laissant faire les patrons en toute impunité. Donc, c'est-à-dire qu'en effet, là, aujourd'hui, en choisissant de ne pas régulariser les salariés, elle choisit le camp des patrons mafieux. Et donc, en effet, elle envoie un signal extrêmement négatif aux salariés de ce pays, mais aussi un signal extrêmement positif aux patrons qui exploitent des salariés en toute impunité. C'est, je veux dire, Gattaz en rêvait, le gouvernement le fait, en effet, sur Château d'Eau. Clairement, on est là-dedans, c'est-à-dire à une exploitation... ahurissante, des salaires qui ne sont pas payés, des salaires du paiement à la tâche, des cotisations qui ne sont pas versées. Bon, c'est quand même assez voilà quoi. On est dans quelque chose qui est ahurissant et la préfecture qui, en se butant, clairement cautionne ce système. Le cautionne totalement. Ils nous disent, il faut pas plus de 3 ans de ceux qui ont moins de 3 ans de présence ne peuvent pas être régularisés. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on estime que des salariés doivent se terrer dans l'ombre et être exploités comme des esclaves pendant 3 ans, voire 5 ans. Donc c'est inadmissible.
Alors, Bon, je comprends maintenant mieux parce que je voyais mal le préfet dire non, non, nous sommes, c'est des amis, les patrons voyous, donc on les soutient. Donc ils utilisent un argument de type technique, administratif, trois ans de présence, c'est ça,
ouais,
c'est ça qui réclame, d'accord. Mais si j'ai bien compris, c'est du travail au noir.
Bien sûr.
D'accord. Il y a des bulletins de paye qui sont délivrés, par contre.
Qui ont été rétroactivement délivrés.
Rétroactivement délivrés.
Suite à la lutte.
Suite à l'intervention de la CGT et la lutte des camarades du 57. Bah, jusqu'ici, il n'y en avait pas.
Non.
Donc, pourtant, il faut des bulletins de paye pour être régularisé.
Totalement.
Donc, il n'y avait aucun moyen, même trois ans, il n'y avait aucun moyen de les prouver.
Non.
D'accord. Donc, si je comprends bien, la préfecture fait totalement abstraction de la réalité. Elle est dans une sphère totalement... voilà, elle est ailleurs, quoi.
Elle est dans une... oui, c'est complètement déconnecté de la réalité. Ou c'est déconnecté, quoi. Il y a une vraie discussion, c'est-à-dire ce que dit Mamadou est réel, c'est-à-dire qu'ils sont déconnectés de la réalité parce qu'ils le veulent bien.
Mmh. D'accord.
Quoi bon ?
Ils le veulent bien, oui, d'accord, ok, je vois. Alors, mais par contre, non, mais il y a quelque chose qui... Quel intérêt, au fait, au final, dans ce cas particulier ici, là, on est face à un système qui est clairement établi, on est face à, au moins dans le cas du 57, on a bien des patrons qui se sont refilés le bébé, qui ont eu des pratiques de gestion un peu bizarres, notamment de déclaration de gérance, olé olé. On a une plainte qui a été déposée par des salariés, qui est tout à fait, bon, examinable, etc. On a une plainte de l'inspection du travail qui est remontée, mais... qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut quoi de plus? Et puis c'est quoi cet argument? En fait, bon, ok, d'accord, trois mois, mais là, en mesure d'urgence, il pourrait régulariser. Il y a quelque chose qui bloque, c'est quoi?
Et c'est la crainte de l'appel d'air. C'est l'appel d'air sans cesse. C'est-à-dire de se dire, ces salariés-là, s'ils sont régularisés, si ces salariés qui ont osé se rebeller contre un système sont régularisés, d'autres vont se rebeller, d'autres vont se manifester, et là, en effet, on risque de faire que ces salariés soient régularisés et ne pourront plus être exploités. Et là, d'où vient la réflexion de Mamadou, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une main-d'œuvre en réserve pour pouvoir exploiter impunément des salariés en France.
Donc vous vous rejoignez bien sur le rôle... On va pas dire que volontaire, mais objectif de l'État, qui est de fournir une main-d'œuvre bon marché en maintenant des gens dans la clandestinité, c'est ça?
Totalement.
D'accord, bon, bah, oui.
Oui, en maintenant les gens dans la clandestinité, en plus, tout le monde sait le boulot que font les sans-papiers ici. Ils sont dans le désamiantage.
Mm-hmm.
Hein? Imaginez quelqu'un qui fait le désamiantage. Mm-hmm. Il n'a pas fait de formation. Un sans-papier, il se présente avec la carte d'identité de son frère ou de son cousin. On lui donne une tenue, il est là pour désamianter. Donc, c'est sûr et certain, il n'a pas fait la formation. Tôt ou tard, il finira par inhaler les fibres d'amiante. Et ce travailleur, s'il reste sur le territoire national, qu'est-ce qui va se passer? C'est quelqu'un qui va développer son cancer de poumon. Et ça va toucher la sécurité sociale. Donc, ils cherchent des gens qui sont là, qui font le boulot le plus difficile, le boulot qui ont le plus de risques. Et à la sortie du boulot, on le prend, on le jette dans son pays. C'est ça.
Pour qu'il meure de son mésothélium là-bas.
Voilà, c'est une façon d'externaliser les risques. C'est ça. Les sans-papiers, ce sont ces gens-là qui sont avec les marteaux-piqueurs.
Mm-hmm.
Ce sont ces gens-là qui travaillent dans le froid, dans les conditions de travail pénibles. Ce sont les gens-là qui sont dans le nettoyage. Ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de gants. Moi, j'ai travaillé dans le nettoyage.
Mm-hmm.
Mon patron m'a fourni des gants qui sont plus fragiles que... Excusez-moi, je ne peux pas prononcer le mot, mais...
Du papier toilette.
Voilà, du papier toilette. Il ne m'a pas donné de masque. C'était à moi de chercher pour me protéger parce que je connais le danger.
Mmh.
Ils sont face à des produits, des produits chimiques dangereux. Et donc tout ça, qu'est-ce qui va se passer à la longue? Combien de travailleurs, plus de 400 000, qui obligatoirement passeront par les hôpitaux? Donc l'État calcule, l'État connaît ce qu'il fait, le gouvernement connaît. Ils sont là pour fournir des travailleurs bon marché. Ils sont là encore pour externaliser les risques, c'est-à-dire des travailleurs dans quelques années, leur vie sera totalement escantée et ils seront complètement, voilà, expulsé. Mmh. C'est ça.
Alors, exposition à des produits dangereux, conditions de travail pénibles, effectivement, bon, horaire à rallonge, ça, c'est un point commun aussi. Fatou, est-ce que toi, tu as eu ce genre d'expérience dans le salon de coiffure?
Oui, nous, on travaillait avec des produits qui étaient très dangereux lorsque, pour le défrisage et pour d'éteindre les mèches, par exemple, la décoloration des mèches, et même les Chinois qui faisaient la manucure.
Mmh.
les produits de vernissage et tout ça, ça c'est des produits qui sont très dangereux. Et vu qu'il n'y avait pas d'aération dans le sous-sol où on faisait les décolorations des mèches, donc vraiment ça n'allait pas.
Effectivement, là pour le coup, j'ai un sursaut professionnel, ça me prend un peu derrière là. Bon, ok, ben écoutez, on a fait un tour là-dessus. Je pense qu'on voit très clairement effectivement pourquoi l'UNSP soutient cette bagarre emblématique. Nous allons voir après la prochaine pause musicale pourquoi, de manière générale, les collectifs de l'UNSP sont entrés en lutte contre le travail au noir.
The girl in the other room, lash and blushes. She seems to look familiar.
C'était The Girl is in the Other Room par Anna Crown. C'est l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel avec l'équipe de Secret de Fabrication pour parler de la vie et des résistances dans le monde du travail. Si vous voulez intervenir à l'antenne, il y a un numéro 01 40 05 06 10. Alors maintenant, nous avons vu effectivement les répercussions de la lutte des travailleurs du 57. Nous avons vu le soutien que pouvaient lui apporter les collectifs de l'UNSP. Je vais me tourner vers Yaya de la coordination 93. Alors, non seulement l'UNSP soutient la lutte des salariés du 57, mais l'UNSP a lancé sa propre campagne sur la question du travail au noir. Peux-tu nous expliquer donc quels sont les buts des collectifs de l'UNSP en décidant de se lancer dans cette campagne, de dénoncer le travail au noir auquel ils sont contraints?
Okay. Merci Jérôme de m'avoir donné la parole. C'est que pourquoi le collectif des sans-papiers lance cette campagne à travers l'UNSP pour dénoncer le travail au noir? C'est que, comme on le dit, nous le faisons parce que y a un train peut en cacher un autre. C'est que la situation du 57 est égale à la situation de 100 000 autres travailleurs sans papier, qu'ils soient du 93, du 95 ou du 94.
Ou ailleurs en France.
Donc, cette campagne n'est qu'à ses débuts. Donc, ce serait répétitif jusqu'à la satisfaction totale. Donc, pour cela, le 21 mars, il y aura une très grande manifestation pour cela.
Mmh. Donc, on va effectivement revenir avant la fin de l'émission sur la manifestation du 21 mars. Oui. Qui est une manifestation pour l'égalité, contre le racisme et le fascisme. Effectivement, donc, l'UNSP a plusieurs fers au feu. L'Union nationale des sans-papiers essaie d'animer politiquement la question des sans-papiers, mais aussi du racisme, la question de la défense des libertés, y compris la liberté de circulation. Donc c'est une gamme de... Il y a plusieurs champs d'intervention. Donc oui. Tout ce qui intéresse... les étrangers, la lutte contre le racisme intéresse l'Union nationale des sans-papiers. Oui. Donc sur le travail au noir, effectivement, il y a des mécanismes qui font que les sans-papiers restent invisibles. Tu peux décrire comment ça se fait que, bah, par exemple, on peut être pendant des années travailleur au noir dans ce pays et ne pas apparaître dans les statistiques, ne pas apparaître nulle part.
Vous savez, Monsieur Jérôme, c'est que les travailleurs sans-papiers sont exploités sous diverses formes. C'est que il y a le travail sous alias.
D'accord.
C'est que une personne qui prend le papier de quelqu'un d'autre pour travailler avec, et là il sera soumis au rythme de cette personne où il est obligé de prendre son nom, son prénom et d'assimiler sa date de naissance et s'identifier. Et pour cela, comme je dis, il est soumis au rythme de celui à qui il a le papier. Mmh. Et cette dernière personne est obligée de le payer.
Mmh. Ah oui, c'est-à-dire que la personne qui a le papier, c'est en fait, il a l'autorisation de travail.
Oui.
Il la prête à quelqu'un qui n'en a pas.
Voilà, qui n'en a pas.
Mais les conséquences sont que le salaire, s'il est versé par virement, il tombe sur le compte de la personne qui a son autorisation.
Effectivement.
Voilà, d'accord.
Et il est rémunéré par cette personne-là.
D'accord.
Vous voyez. Et là, il y a certaines personnes qui sont... Les travailleurs au noir, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont payées par chèque.
Oui.
Et par l'argent liquide.
D'accord. Donc, pas de trace non plus.
Non, pas de trace non plus.
Donc, on a soit quelqu'un qui ne reçoit aucun bulletin de paye, pas de trace.
Oui.
Soit il les reçoit sous un autre nom.
Voilà.
Et ça lui sert à rien.
Ah voilà, ça ne sert à rien.
D'accord. Sans parler, évidemment, des conséquences sur le paiement de l'impôt, des choses comme ça.
Effectivement. Mmh. Et c'est pour cela qu'il y a cette véritable campagne qui se met en route maintenant pour dénoncer tout cela.
D'accord. Dénoncer tout cela, permettre la régularisation.
Voilà. Permettre la régularisation, même avec alias.
Avec alias.
Voilà.
Ou sans fiche de paye du tout, en fait.
Voilà. Sans fiche de paye, mais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre.
D'accord. Oui. D'accord. Donc, alors, nous avons eu une manifestation, un rassemblement aujourd'hui, à laquelle plusieurs collectifs sans papiers ont participé. Donc, c'était un rassemblement pour interpeller le ministre du Travail, donc à Varennes. Il y avait plus de 300 personnes, 400 même. Et moi, ce que je remarque, c'est que les collègues de l'inspection du travail et du ministère du Travail sont venus en nombre. C'est pas forcément habituel dans un rassemblement de ce type. Et là, je me tourne vers François. Pourquoi est-ce que les syndicats de l'inspection, là, pour le coup, en tant que tels, ont décidé de participer à ce rassemblement et voire à la campagne?
Bon, c'est pas une nouveauté, hein. Ça fait longtemps que les syndicats du ministère du Travail sont engagés dans le soutien de la lutte des travailleurs sans papier. Mmh. Et là, appelait au rassemblement d'aujourd'hui une intersyndicale de Sud Travail, de la CGT et de la FSU du ministère du Travail. Bon, pourquoi? Parce que, il y a des situations d'infraction sur lesquelles interviennent les agents de contrôle de l'inspection du travail. Alors, bon, bien sûr, avant tout, le problème d'infraction à la réglementation du droit au travail, hein, qui existe, qui fait partie des missions de nos services d'inspection du travail à contrôler, mais pas que. C'est des situations où on peut dire il y a des cumulards, hein, les interventions de Marilyn, de Mamadou, de Fatou, qu'on a entendu tout à l'heure, démontrent bien que les infractions vont bien au-delà. Dans les situations où il y a des travailleurs sans papier, on peut s'attendre à des infractions sur la durée du travail, sur le non-paiement d'heures supplémentaires, sur les conditions d'hygiène dans lesquelles les gens travaillent ou les conditions de sécurité. Donc, pour l'inspection du travail, entre guillemets, c'est un peu des bons clients, hein, ces situations-là.
C'est ça.
D'autant plus qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent à ça, c'est la difficulté du droit à la représentation. Dans ces entreprises, il n'y a pas de délégué du personnel, il n'y a pas de comité d'entreprise qui pourrait représenter les salariés concernés.
Ah bah, en théorie, il n'y a pas de salariés, en fait, parce qu'ils ne sont pas déclarés. Donc,
ils peuvent être déclarés sous alias,
oui,
comme
par exemple.
Ça vient d'être expliqué par Yaya. Il y a des réalités très complexes, les réalités sont multiformes, mais la défense des droits des salariés est très difficile. Mmh. Et heureusement, bon, certaines confédérations syndicales comme la CGT font un gros travail de l'extérieur pour soutenir les luttes des travailleurs sans papier dans certaines entreprises. Alors, au-delà de ça, donc l'inspection du travail ne dépend pas de la préfecture. On a soulevé tout à l'heure le rôle de la préfecture. L'inspection du travail est là pour appliquer la réglementation du travail, le droit du travail. Et le droit du travail, pour être défendu et pour être développé, c'est le mode de fonctionnement normal dans une démocratie au niveau de l'ensemble des que ça profite à l'ensemble des salariés. Il faut commencer par défendre ceux qui sont le plus exposés, les salariés les plus exposés. C'est là où on a de véritables avancées du droit du travail qui vont profiter à l'ensemble des salariés. Et il n'y a pas de rupture, de coupure d'un côté. Les salariés sans papier seraient dans leur ghetto, mais il y a une continuité dans le monde du travail. Et les travailleurs sans papier sont avant tout des travailleurs.
C'est ça.
Et doivent bénéficier pour l'application effective du droit du travail en France, d'un droit démocratique théoriquement, avec une réglementation précise qui est ce qu'elle est, qu'on peut critiquer, mais qui est sur des principes démocratiques, il est nécessaire de supprimer et d'intervenir sur ces zones de non-droit.
Or si je peux me permettre, l'intervention est rendue difficile par la fragilité même des salariés, parce que ça complique notre tâche. Hein, quand on intervient sur un endroit comme par exemple si on intervenait sur le 57, effectivement c'est comme tu dis, c'est un multidélinquant, non paiement, gérance de fête, non respect des heures, travail du dimanche, exposition à des produits dangereux, vas-y, pas de problème. Il n'y a même pas besoin de l'infraction d'emploi d'étrangers sans titre en fait. Il a tout faux dans tous les autres domaines. Le problème c'est que il est protégé par le silence des salariés, hein. Qui n'ont pas le choix, et il est protégé par la complaisance de la préfecture. Pour nous, l'intervention devient compliquée pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le droit du travail. On est d'accord, en fait, quelque part. C'est tout le reste qui vient compliquer, alors que le seul problème qui bloque, c'est la question des papiers, en fait.
Voilà, c'est le seul problème qui bloque, puis qui est significatif d'un ensemble, et d'un ensemble qui concerne les droits de tous les salariés, et qui concerne aussi les employeurs. Alors, si on reprend le discours du MEDEF, les situations de travail illégal qui sont décrites ici portent atteinte à la concurrence pure et parfaite, que nous sommes aussi quelque part chargés de faire appliquer.
Ouais.
Et donc on voit que c'est un cancer qui va fausser tout le fonctionnement économique, sur lequel nous avons vocation à intervenir en tant qu'agent de l'inspection du travail.
Voilà.
D'où la présence des syndicats du ministère du Travail.
Voilà.
L'autre aspect des choses étant bien sûr qu'il y a tout un aspect de la réglementation sur le droit au travail qui est géré par les services de la main-d'œuvre étrangère, qui sont aussi des services du ministère du Travail et que les syndicats du ministère du Travail ont vocation à représenter. On est pleinement dans le cadre de nos missions, d'où la rencontre d'aujourd'hui avec Rebsamen ou au ministère du Travail.
C'est ça. Donc on a décidé de passer l'action multipliée puisque au lieu de effectivement nous ne nous contentons pas de soutenir. Nous sommes pleinement impliqués dans cette campagne parce que nous considérons qu'effectivement ça rentre tout à fait dans notre champ d'action syndicale. Et donc là, c'est un exemple. Bon, je veux pas faire trop de pub sur l'action du ministère, mais moi, je suis particulièrement content, effectivement, de voir comment ça se passe, parce que c'est une vraie convergence. Là, on échange des idées, on échange des luttes, on se soutient mutuellement, hein, parce que renforcer. Vous demandez aussi quelque part hein, les collectifs sans papier. Vous demandez le renforcement de l'inspection du travail. Vous demandez le respect de nos missions. Et nous, de notre côté, on demande à ce que vous soyez traités à égalité avec les autres salariés. Donc, on a vraiment des intérêts communs dans cette affaire. Donc, je suis particulièrement content. Je tiens à souligner que dans cette action, ce qui se passe ici, c'est un exemple de nécessité de s'organiser, la nécessité de converger dans la solidarité entre les situations, entre les professions, hein, nous venons d'horizons différents, pourtant on est tous autour de la table aujourd'hui et on est tous prêts à se bagarrer côte à côte. Donc ça c'est quelque chose que je tenais à souligner et évidemment il y aura des suites hein, à cette action. Et déjà, comme le disait Yaya, je vous rappelle le rendez-vous du 21 mars, donc à l'initiative principalement de l'Union nationale des sans-papiers, avec plus de 103 organisations, associations, partis, syndicats et collectifs signataires de l'appel à manifester. Donc le 21 mars à 15h à Barbès. Il y aura également une assemblée de mobilisation mercredi 11 à la Bourse du Travail de Paris à 19h pour préparer les actions et la manifestation. Également des manifestations prévues à Toulouse, Perpignan, Avignon, Strasbourg, Poitiers, des rassemblements et des initiatives locales. Sachant que c'est une action européenne, il y aura des manifestations très importantes dans tous les pays de l'Union européenne, et notamment en Grèce, où cette question est devenue assez centrale dans la vie politique. Donc, N'oubliez pas de vous mobiliser pour le 21 mars. C'est tout à fait dans la continuité de la mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui. C'est une campagne menée par le même rassemblement de collectifs. Et nous vaincrons !